Il est 8h.
Si on allait dans un restaurant, si on allait dans un bar, si on allait dans une réunion à l'extérieur, eh bien, on a côtoyé des personnes qu'on ne connaît pas.
On ne les connaît pas et elles nous ont peut-être contaminés. Comment mieux tracer cette maladie quand même des ministres et le premier d'entre eux n'utilisent pas l'application Stop Covid ? La définition même du cas contact est très mal comprise. Les territoires foudroyés par la crise économique, enquête Europe 1, là où les milliers de suppressions d'emplois, loin de Paris, font craindre aux élus bretons un bouillonnement social. Dans ce journal, le constructeur Renault, entre plan de réduction d'emplois et tout de même début d'optimisme, le premier débat Trump-Biden ce soir, sans poignée de main, mais avec de vrais sujets d'empoignade, et l'Académie des Césars face au défi de sa rénovation pour réconcilier le cinéma français avec lui-même.
Les fréquences 5G aux enchères aujourd'hui et le débat plus vif que jamais. Le flop de l'application Stop Covid aussi. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit celui qui est en charge de ces dossiers, le secrétaire d'État à la transition numérique, Cédric O. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En apparence si simple, la stratégie française anti-épidémie, tester, tracer, isoler, montre chaque semaine des faiblesses sur chacun de ces trois piliers. Les centres de dépistage débordent, l'isolement est très peu respecté, quant au traçage, il n'est pas bien performant non plus.
Prenons un exemple. La semaine du 14 septembre, seuls 7% des cas contacts théoriques se sont avérés positifs au coronavirus. Ève Roger, Santé publique France, parle d'un chiffre de faible niveau. Qu'est-ce qu'il signifie ?
Eh bien, ça veut dire que 93% des cas contacts identifiés par l'assurance maladie la semaine dernière sont négatifs. Une bien maigre pêche qu'on peut expliquer d'abord parce que les Français connaissent très mal la définition du cas contact selon l'épidémiologiste Martin Blachier.
Il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'ils ont été en contact. Ça veut dire que dans l'opinion publique, le risque de transmission est largement surévalué. En fait, pour être cas contact, il faut avoir eu une interaction qui est relativement soit longue, soit proche.
Et sans masque. Et puis, deuxième écueil, la liste fournie par les malades n'est pas complète. Ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont infectés sont parfois déboussolés et n'arrivent plus à se souvenir qui ils ont croisé de près. Et puis enfin, et surtout, il y a beaucoup de cas contacts qu'on ne connaît pas, rappelle Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM.
C'est en général assez facile de retrouver qui sont les gens de sa famille ou qui sont les gens de son entourage professionnel avec lequel on a eu des contacts. En revanche, si on allait dans un restaurant, si on allait dans un bar, si on allait dans une réunion à l'extérieur, eh bien, on a côtoyé des personnes qu'on ne connaît pas.
Sans coordonnées, on ne peut donc pas remonter les chaînes de contamination, ni même identifier et comptabiliser les clusters dans les bars et les restaurants.
Ève Roger pour Europe 1.
L'épidémie qui a fait 81 morts hier, on compte aujourd'hui plus de 1200 clusters en cours d'investigation, dont 250 dans les EHPAD. La crise économique, elle, n'est pas seulement un problème social temporaire, réglé à coup de chômage partiel. Le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, en a discuté hier en tête-à-tête avec Jean Castex. Il faut dire que son territoire est particulièrement touché.
Bonjour Charles Guyard.
Bonjour Mathieu.
Vous avez sillonné une région en sursis où la colère monte.
Et c'est à Morlaix qu'on a d'abord pris rendez-vous et d'entrée, le ton est donné par le maire Jean-Paul Vermeau.
Ça gronde dans le Trégor, ça gronde dans le Léon. Et on sent que là, il y a vraiment cette coalition qui est en train de monter très fortement. Le peuple pourrait se rebeller. Il est temps que des décisions que nous avons demandées trouvent réponse auprès du gouvernement.
Des réponses autrefois réclamées de manière plus radicale parfois. Bonnet rouge, gilet jaune et colère noire au final. Et ça pourrait s'enflammer de nouveau face à la menace de casse sociale. À Air France, chez Nokia ou à la Britannique. Ferries en proie à des pertes records de la nuit à Roscoff en passant par Morlaix, la zone est en passe de devenir le triangle des Bermudes de l'emploi. Sous-traitants, commerce, école, une entreprise ferme et c'est tout un territoire qui trinque.
Un emploi industriel, c'est 4 à 5 emplois menacés et induits.
Benoît Dumont, responsable CGT à Lannion.
On a recensé effectivement 908 enfants salariés de Nokia. Donc c'est autant d'enfants scolarisés qui ne le seront plus ou moins sur le Trégor.
Alors justement, Charles Guyard, vous avez aussi rencontré Yann Thomas. Il est ingénieur, père de 3 enfants et d'ici juin prochain, voire beaucoup plus vite, il devra quitter Nokia. On écoute son témoignage.
On aura 3 semaines pour qu'il nous fasse des entretiens pour nous aider à nous reconvertir. 3 semaines pour se reconvertir, changer de vie, et ça nous paraît très léger. On a cette maison qui ne nous a pas coûté excessivement cher. Si on était obligé d'aller sur Rennes, par exemple, ce ne serait pas du tout les mêmes tarifs.
On a donc bien compris, il y a Nokia à Lannion, il y a Air France à Morlaix et Charles, il y a à Roscoff, Brittany Ferries en pleine difficulté.
Pas de licenciement pour l'instant ici, mais les quelques 3000 salariés naviguent à vue dans une mer agitée par le Brexit puis le Covid. Faute de passagers anglais, des bateaux restent à quai, des rotations sont supprimées et dans la ville, c'est la panique.
Hôtel d'Angleterre, bonjour.
Caroline Allard, la gérante de l'établissement.
Ok, so you need a cancellation.
Au bout du fil, des clients anglais qui annulent de peur d'être contraints à une quatorzaine de retours chez eux. Des appels comme cela, c'est tous les jours ou presque depuis des semaines une véritable catastrophe.
Cette clientèle anglaise nous manque et va énormément nous manquer en octobre. J'ai été obligée de licencier tout le monde. Je ne sais pas si j'ai la capacité de continuer.
Aujourd'hui, les hôtels souffrent, mais qu'en sera-t-il demain si la situation perdure et provoque le naufrage complet de la Brittany Ferries, un nouveau séisme social en perspective dont les répliques pourraient bien faire trembler au-delà de cette région.
Enquête signée Charles Guyard pour Europe 1. Parmi les secteurs très affectés par la crise, l'automobile, bien sûr. Le groupe Renault est en comité social économique ce matin.
Avec au programme les 4600 suppressions d'emplois en France, Aurélien Fleureau, on attend aussi pour les prochaines semaines la nouvelle stratégie commerciale du constructeur.
Il faudra peut-être aller plus loin que prévu dans l'effort de réduction de nos coûts. Cette phrase est signée Luca De Meo, le nouveau directeur général de Renault, dans un document que les salariés ont pu consulter cet été. Toujours les mêmes recettes, a dénoncé la CGT Renault. En revanche, en interne, l'arrivée d'un patron qui respire l'automobile a été accueillie comme une source d'optimisme. Ce sera dur, mais au moins, il y a une vision, selon Guillaume Ribert, délégué central de la CFE-CGC, syndicat numéro 1 du constructeur.
Socialement, on est dans une situation où on va dire que le dossier évolue depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général. Donc on sent un nouvel élan dans le dialogue social qui était quand même difficile lors des annonces du plan d'économie. On a bien compris que 2021-2022 vont être très très difficiles, avec des décisions dures mais nécessaires par rapport à la santé d'entreprise.
Parmi les signes positifs chez Renault, la vague de départ de cadres en direction du concurrent PSA s'est inversée ces derniers mois. Et à des postes clés comme l'ingénierie, le design et le marketing. Autre source d'espoir, le pôle d'excellence qui va accueillir la future plateforme des véhicules électriques dans le Nord sera dirigé par Luciano Biondo, le charismatique patron de l'usine Toyota d'Onin.
Une bonne nouvelle économique tout de même. 45 000 palettes de Nutella, c'est ce que pourra contenir le nouvel entrepôt du groupe Ferrero qui investit 42 millions d'euros en Normandie, alors que la consommation de pâte à tartiner augmente de 4 à 5 % par an en France.
Vous restez avec nous dans un instant, 90 minutes pour convaincre 330 millions d'Américains. Le premier débat Joe Biden-Donald Trump ce soir.
Et puis deux ans pour rassembler le cinéma français. Véronique Kella et Éric Toledano élus aujourd'hui à la tête de l'Académie des Césars.
A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
Lors du tout premier débat du genre à la télé, Kennedy contre Nixon, il y a 60 ans, Donald Trump et Joe Biden étaient sans doute déjà en âge de s'intéresser à la politique du haut, respectivement de leurs 14 et 17 ans. Les voilà face à face ce soir.
Bonjour Xavier Vaughan.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Europe 1 dans l'Ohio, où se tient ce premier débat de la campagne présidentielle américaine de 2020. Un duel pas tout à fait normal.
Alors ça va être un débat en mode Covid. Il y aura très peu de public dans le bâtiment de la Cleveland Clinic transformé en bunker. Donald Trump et Joe Biden ne se serreront pas la main. Leurs pupitres seront à bonne distance l'un de l'autre. Ça ne les empêchera pas de s'empoigner au moins verbalement pendant une heure et demie sans coupure pub, avec au programme la pandémie, l'économie, la Cour suprême ou encore les tensions raciales.
Oui, on s'attend à ce que ce soit assez vif.
Honnêtement, oui, et en fait, ça l'est déjà. Donald Trump a réclamé un test anti-dopage pour Joe Biden. Comme le président dépeint constamment son adversaire comme un vieillard sénile, eh bien, il explique que Joe Biden ne peut tenir un tel débat qu'en étant forcément dopé.
Xavier Yvon, si on se met un instant dans la tête des candidats ce matin, quel est l'enjeu pour eux avec ce débat ?
Alors, pour Donald Trump, c'est d'inverser la tendance. Il est à la traîne dans les sondages depuis des mois, avec des écarts constants. Il va donc être très offensif. On sait qu'il veut attaquer notamment Joe Biden sur les affaires de son fils en Ukraine. Sujet aux gaffes et aux accès de colère, l'ancien vice-président, lui, s'est préparé à résister calmement à la déferlante Trump. Il a répété des simulations de débat avec un de ses conseillers dans le rôle du président. Pour lui, il s'agit d'éviter les faux pas et de se montrer aussi un peu plus aux Américains alors qu'il est critiqué pour sa discrétion dans la campagne.
Et c'est le genre de show télévisé qui peut vraiment décider certains électeurs ?
Alors ce qui est sûr, c'est que ce sera très suivi, c'est le Super Bowl de la politique, on attend jusqu'à 120 millions d'Américains devant leur télé, ce serait un record. Mais l'histoire récente montre que ces débats ont malgré tout un impact limité. Hillary Clinton, par exemple, avait été considérée comme la gagnante des trois débats en 2016, et ça ne l'a pas empêché de perdre l'élection.
Merci Xavier Yvon, envoyé spécial en ligne de l'Ohio aux États-Unis pour Europe 1.
Il salue son courage personnel. Emmanuel Macron rencontrera aujourd'hui Svetlana Tikhanovskaya, l'opposante biélorusse exilée en Lituanie, où le président français est en visite.
Là aussi, la diplomatie est de rigueur, mais on parle de cinéma. Le cinéma français, éprouvé par les tensions au sein de l'Académie des Césars.
L'institution qui va élire ce matin Véronique Kella à sa tête. Le réalisateur Éric Toledano sera président adjoint. Ce sont les deux seuls candidats qui vont devoir apaiser une Académie des Césars plombée depuis des mois, Mathieu Charrier, bien avant la crise sanitaire.
Oui, depuis le début de l'année 2020 en fait, avec d'abord la contestation de la gestion opaque de l'Académie par Alain Terzian depuis 17 ans, puis les 12 nominations pour Polanski, qui se retrouva enfin couronné meilleur réalisateur lors de la cérémonie, c'en était trop. Mais une fois l'ancienne direction évincée, il a fallu entreprendre une rénovation complète des Césars, sous l'égide du Centre National du Cinéma. Alors, principale décision, d'abord saluée par tous, l'élection aujourd'hui de nouveaux dirigeants, à parité parfaite, et représentant toutes les instances. Mais problème, sur les 182 nouveaux administrateurs, 18 membres historiques sont restés, c'était prévu dans les statuts, parmi lesquels Thomas Langman, condamné pour harcèlement moral sur son ex-compagne, et surtout Roman Polanski, encore lui, qui pour apaiser les choses a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à l'Assemblée Générale d'aujourd'hui. Les nouveaux élus vont donc devoir revoir ces statuts, afin sans doute d'évincer ces membres historiques dont Polanski, et puis surtout tenter d'organiser un peu plus sereinement la future cérémonie des Césars qui, si le Covid le permet, est toujours fixée au 26 février 2021.
Mathieu Charrier. Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.